sur VOA Afrique.
Le magazine Femina de VOA Afrique.
Comment remettre la fille à l'école? La famille fait déjà les marques. Elles sont sales jeunes. Qui va m'aider? Comment remédier à l'inégalité des salaires entre hommes et femmes aux États-Unis et en Afrique? Chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge avec vous. Peut-être une réponse à la question dans le magazine au féminin grâce à notre invité Mamadou Samba, directeur du Bureau des Affaires africaines du maire de Washington DC. Mamadou Samba, qui est également spécialiste en business et immigration. Monsieur, bonjour et merci beaucoup pour votre présence.
Bonjour et merci.
Avec nous dans le studio également, ma collègue Esha Groover, experte en immigration. Bonjour et merci Esha d'être avec nous également.
Bonjour.
Alors, Monsieur Samba, avant de débuter la discussion, Esha Groover va dresser un plan de la situation.
Parole de femme.
Alors Esha, on commence par quelques chiffres.
Oui Nathalie, 77% c'est le chiffre qu'on entend le plus quand il s'agit d'inégalité entre hommes et femmes aux États-Unis. Les femmes ne gagnent que 77% du salaire des hommes.
Alors ce n'est pas un problème que l'on retrouve uniquement aux États-Unis et du côté de l'Afrique.
Une nouvelle étude faite par le Forum économique mondial montre que le pays où les femmes et les hommes sont le plus égaux en termes de salaire est le Burundi. Les femmes gagnent 83% des salaires des hommes en contrepartie du même travail. L'un des facteurs qui font que le Burundi soit un cas particulier est le taux d'alphabétisation. En effet, 85% des femmes et 89% des hommes savent lire et écrire. De plus, 30% des membres du Parlement burundais sont des femmes. Des chiffres impressionnants comparés à d'autres pays africains. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les femmes ne gagnent que 49% des salaires des hommes.
Alors, quels sont, Esha, les facteurs qui élargissent le fossé salarial entre les femmes et les hommes?
Alors, Nathalie, pour mieux comprendre, j'ai recueilli quelques chiffres et exemples des différents États des États-Unis. Comme je disais, ici, le fossé salarial est de 77% dans l'ensemble du pays. Mais ici, à Washington, DC, les femmes gagnent presque le même montant, 91% du salaire des hommes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que beaucoup d'emplois à Washington ont un rapport avec le secteur politique. Par contre, l'État américain avec le plus grand fossé est la Louisiane, où les femmes ne gagnent que 66% du salaire des hommes.
Alors, comment ça se fait, Esha?
Eh bien, une des principales raisons est que beaucoup des métiers en Louisiane, comme dans le Wyoming et le Virginie occidentale, sont de tradition plutôt masculine, exemple l'agriculture, l'industrie, etc. Un détail au passage, les fermes familiales sont généralement déclarées officiellement au fisc au nom du chef de famille, donc en principe du père ou du mari. Autre frein à l'égalité des salaires aux États-Unis, bon nombre des femmes, étant donné leur charge de travail au sein même de leur famille, sont obligées de prendre des congés supplémentaires, de travailler à mi-temps et même parfois de refuser une promotion.
Alors, que font les Américaines pour combattre ce phénomène d'inégalité ?
Certaines femmes connues se prononcent sur la question, notamment Sheryl Sandberg, la directrice générale de Facebook, qui dit dans son livre Lean In que les Américaines sont trop timides et qu'il ne faut pas qu'elles aient peur d'exprimer leurs idées. La question du fossé salarial entre les hommes et les femmes a également reçu plus d'attention suite au discours de l'actrice Patricia Arquette aux Oscars. Elle a dit qu'il était grand temps d'éliminer le fossé salarial.
Et l'on se souvient également que Meryl Streep, une grande actrice américaine, s'était levée, elle avait applaudi, elle avait même lancé un petit cri. Mais moi, j'avais remarqué justement qu'il n'y avait pas beaucoup de... il y avait moins d'entrain, Monsieur Samba, je ne sais pas si vous vous souvenez des Oscars, il y avait moins d'entrain que par rapport au discours contre le racisme des rappeurs au moment des Oscars. Bref, oh, c'est entre parenthèses. Alors, pour conclure, Echa.
Pour conclure, sachez qu'une graphiste de Pittsburgh, Elena Schlenker, a ouvert un atelier qui vend exclusivement des œuvres d'art d'artistes femmes. Ses clientes ne paye que 77% du prix pour compenser la différence au niveau des salaires.
Intéressant, n'est-ce pas ? Et on précise que les hommes ont le droit d'acheter.
C'est ça.
Voilà. Alors, monsieur Mamadou Samba, votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Bon, d'un côté, je ne suis pas surpris. C'est un débat, c'est un dialogue qu'on a tenu pendant les 50 dernières années. Mais aussi au niveau de Washington, je suis très content d'entendre Aïcha dire que les femmes gagnent 91% de ce que gagnent les hommes, ce qui n'est pas excellent, mais ce qui nous montre que Washington est beaucoup plus à l'avance par rapport aux autres pays, parce que la ville est beaucoup plus progressive quand il s'agit des idées et du débat. Donc il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Mais aussi, il faut savoir que les femmes aussi ont moins tendance à négocier le salaire, ce qui contribue à ce phénomène. Les femmes ont moins tendance à négocier le salaire parce qu'elles ont souvent peur de ne pas être choisies pour ce job, ou bien elles ont moins peur parce qu'elles pensent souvent que si elles négocient beaucoup plus, elles vont perdre l'emploi, ou bien elles vont perdre l'opportunité, ou bien beaucoup de plus de facteurs, ce qui contribue aussi à ce phénomène qu'on doit aussi discuter davantage.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais entendu ça. Et en plus, ça sort de la bouche d'un homme. C'est formidable. Hein. C'est-à-dire que vous avez remarqué, c'est psychologique. C'est des craintes, finalement, mais qui sont dues à une certaine tradition universelle, un peu patriarcale. C'est toujours la femme qui a peur d'eux.
Oui, effectivement. Hein? Et c'est plutôt psychologique. Et même quand les femmes négocient, elles négocient quatre fois moins que ce que les hommes gagnent. Donc, on parle aussi de ce qui aussi amène le débat sur le renforcement des capacités. Il y a beaucoup de sites qui sont disponibles à tout le monde qui te permettront de, si tu dois aller faire un entretien, par exemple, de savoir le salaire au niveau national et aussi de savoir le salaire que tu dois être, que tu dois gagner. Ce qui te permettra d'avoir des informations pour dire à ton boss, bon voilà, vous m'offrez 91 000 $, mais le salaire moyen c'est 120 ou bien 110.
Alors ce qui est intéressant encore une fois finalement, c'est qu'on est à un stade de la société, si j'analyse ce que vous venez de dire, où ce sont les hommes encore qui doivent entraîner les femmes, parce que vous en quelque sorte les hommes, vous avez l'habitude, n'est-ce pas, au fil des ans, et donc ces femmes, elles ont besoin d'être un petit peu boostées en quelque sorte, elles ont besoin d'apprendre à se comporter en businesswoman, c'est ça.
Effectivement, et bon, ce qui nous mène au niveau de la mairie, c'est ça fait partie de notre mission, le renforcement, comment dirais-je, partager les informations pour renforcer les capacités des hommes et des femmes, des businessmen, pour leur permettre effectivement de pouvoir faire cela. Mais aussi, il faut souligner que non seulement les femmes gagnent moins que les hommes, mais c'est pire encore pour les femmes qui sont noires, les immigrés. Donc, c'est un débat, c'est un phénomène qu'on doit ajouter dans ce mix-là, qui vraiment est quelque chose à vraiment souligner.
Alors, vous-même, justement, vous êtes un spécialiste en la matière, hein, vous avez été nommé en janvier dernier, janvier 2015, en tant que directeur du Bureau des Affaires africaines du maire de Washington, de Madame la maire, Muriel Bowser, une très jeune femme d'une quarantaine d'années. Vous pouvez nous dire deux mots sur elle ?
Elle a 42 ans. Ouais. Elle a fait, avant d'être élue maire, elle a fait 8 ans en tant que membre du conseil, le DC Council. Et je pense que durant tout ce temps-là, elle a beaucoup fait pour soutenir les Noirs, les minorités et ceux qui n'ont pas eu la chance de faire partie du débat. Et donc la nomination pour moi est d'abord une chance. une chance d'être choisie par elle, mais aussi c'est une opportunité de pouvoir assister ou bien soutenir la communauté africaine, plus particulièrement les femmes.
Alors voilà, les femmes, on revient sur le sujet. Voilà. Vous dites, et en plus de ça, les femmes, si elles sont noires, c'est encore pire. Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans votre service pour, eh bien, pour remédier à cela?
Voilà, donc hier, on a tenu un programme sur les femmes, les business owners. Et donc, ce qu'on est en train de faire est de leur mettre en contact avec les informations, de leur guider vers là où se trouvent les informations qui sont disponibles pour tout le monde. Parce que tu vois, on a beaucoup d'immigrés qui pensent qui ont souvent peur d'aller vers les informations. Et donc, on est en train de leur mettre en contact avec les experts, les ressources, et comment trouver du financement pour leur business et aussi les soutenir pour... Vous savez, l'information est une arme qui est très forte.
Mais si j'analyse encore tout ce que vous venez de dire, on a le sentiment aussi qu'il y a beaucoup à faire dans l'assurance. Ces femmes, elles ne sont pas sûres d'elles, c'est ça le problème. Il y a aussi un enseignement, apprendre à avoir du charisme ou toutes ces choses-là, c'est pas évident, non? Oui, pour tout le monde, c'est pas évident pour tout le monde. On peut vouloir se lancer dans le business et ne pas avoir la carrure.
Non, c'est vrai, mais bon, je ne veux pas aussi donner l'impression que c'est la femme qui a beaucoup de travail à faire. Mais aussi, nous les hommes, vous savez, il y en a certains parmi nous qui ne veulent pas qu'une femme gagne plus d'argent que toi, qu'un homme. Il y en a dans les mariages,
c'est aussi culturel.
Ouais, il y en a des hommes qui ne veulent pas que leur femme gagne plus d'argent que moi. Je n'ai pas de problème, hein, parce que si ma femme gagne beaucoup plus d'argent que moi, ça veut dire que je peux rester à la maison et dormir. Mais bon, c'est un débat, c'est un problème qu'on doit affronter quand même.
Vous écoutez le magazine au féminin de VOA Afrique avec comme invité Mamadou Samba, directeur du bureau des affaires africaines du maire de Washington DC. On retrouve donc notre invité dans quelques minutes.
Entre parenthèses.
Je vous propose d'écouter à présent Tigui Danke Mounir Camara, ex-mannequin d'origine guinéenne, PDG et fondatrice de Tigui Mining Group et de Camara Diamond and Gold Trading New York. Alors Camille Grosdidier lui a tendu le micro dans nos studios ici à Washington.
La majorité des pays africains sont très riches en ressources minières, spécifiquement mon pays. Et moi, venant d'une famille politique, je sais que les mines sont quelque chose qui pourront, si bien développées, aider à éradiquer la pauvreté. Donc mon objectif, c'était en tant que fille d'Afrique, fille de la Guinée, en me lançant dans ces activités, peut-être que je pourrais aussi donner quelque chose sur le plan social, tout en développant une compagnie qui va être économiquement viable et créer de l'emploi.
Où se trouvait la première mine que vous avez tenté d'exploiter ?
À la toute première, c'était dans le domaine du diamant. C'est dans la zone de Kirwané-Masanta. Nous sommes bien situés dans la zone triangulaire du diamant appelée Kirwané-Masanta-Kissidougou. Donc j'ai une superficie de 280 km² en diamant et tout ce qui est minéraux associés.
Comment est-ce que vous avez pu affronter le fait que en fait vous êtes une femme dans un milieu, le secteur minier, qui a été essentiellement et qui reste essentiellement contrôlé par des hommes?
Comme je le dis toujours, pour moi le challenge, c'était pas vraiment parce que je suis une femme, parce que pour moi j'ai ma propre société. Je ne travaille pas pour quelqu'un, donc je ne peux pas vraiment vivre les problèmes que ces femmes employées dans les sociétés minières peuvent vivre. Parce que moi, je suis à une position un peu plus différente, où j'ai plus de pouvoir de changer les choses que de recevoir des ordres. Mais pour moi, c'était plutôt parce qu'en me regardant, je suis jeune, j'ai encore l'air mannequin. Donc c'était plutôt de prendre le focus de « Ah, jeune mannequin ». À femme entrepreneur. Donc ça, c'était pour moi plus le challenge.
Être prise au sérieux.
Prise au sérieux, voilà. Oui. Mais maintenant, finalement, ça y est, on me prend au sérieux parce qu'on me voit souvent dans beaucoup d'organisations concernant le secteur minier. Ils savent que je ne plaisante pas, que je prends très, très au sérieux mon travail et que j'ai beaucoup de passion pour ce que je veux faire. Donc, au contraire, j'ai beaucoup de gens qui me guident. J'ai pas mal de mentors en ce moment. Voilà, ils veulent aussi me voir... évoluer dans le secteur. Et surtout qu'il y a pas mal d'associations de femmes dans le secteur minier, comme Women in Mining International. Et maintenant, il y a des branches comme la branche sud-africaine. Je suis cofondatrice de la branche guinéenne et je viens juste de participer à la mise en place de la branche ivoirienne.
Voilà, c'était la businesswoman Tigui Danké Mounir Camara. Et je reviens vers notre invité Mamadou Samba. Alors, pour avoir votre réaction par rapport à cela, d'ailleurs, cette dame, elle parle de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Hein. Elle a des mentors, elle est... Voilà, c'est des femmes qui sont soutenues en général.
Effectivement, et ce qui est vraiment important, parce qu'elle a parlé d'être prise au sérieux, mais elle a effectivement raison, parce que même dans les matières de STEM, sciences, technologies, mathématiques, engineering, on voit que les femmes, on ne les prend pas au sérieux. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une femme qui est belle, qui est éduquée et occupée certaines fonctions. C'est pourquoi on a vu Yahoo, quand ils ont embauché une femme comme CEO, ça a été quelque chose d'innovatrice, tu vois. Au niveau de... Même en Afrique, on parle d'augmenter le nombre d'étudiants qui sont dans le milieu STEM, plus particulièrement les femmes. Ce qui est aussi important parce qu'on sait que d'ici les 50 ans à venir, l'Afrique a un très grand potentiel. Et pour en bénéficier, il faut aussi supporter les femmes et leur permettre de pouvoir bénéficier de toutes ces informations et ressources qui sont disponibles.
Mais là, en fait, la question, c'est plutôt la question du salaire. Alors, l'on sait effectivement que l'emploi d'une manière générale est moins accessible aux femmes, que ce soit partout. Vous, quel regard en tant qu'Africain, quel regard portez-vous sur la différence des salaires hommes-femmes? Je ne sais pas, dans votre pays d'origine, le Sénégal ou autre. Ouais. À quel point on en est en ce moment? Est-ce que c'est pire ou... Parce que c'est pas toujours pire, en fait. Hein?
Non, c'est pas toujours pire, mais vous savez, avant de parler du salaire, il faut déjà parler de l'emploi.
Bien
parce
sûr,
qu'on n'a pas un salaire sans emploi.
Bien sûr.
Mais si on regarde l'emploi, c'est pire. Le nombre d'hommes contre le nombre de... balancé contre le nombre de femmes, c'est comme, comment dirais-je, nuit et jour. Et ensuite, on parle du salaire. Mais déjà, il faut déjà augmenter le taux d'emploi des femmes pour leur permettre d'avoir beaucoup plus, d'intégrer beaucoup plus. Et ensuite, on parle du salaire. Mais parlant du salaire, encore, en Afrique déjà, on a ce phénomène de l'homme qui domine la femme, ou bien la femme qui ne doit pas gagner beaucoup plus, ou bien les femmes qui ne doivent occuper des postes de secrétaire et trucs. Tout cela fait partie du débat. Et il faut d'abord affronter cela en même temps que le dialogue du salaire.
Mais pour conclure, qu'est-ce que vous diriez sur la situation en Occident ? Echa, tout à l'heure, a annoncé les chiffres des États-Unis. On parle des États-Unis, un des pays les plus libéraux, etc. Et c'est quand même étrange, ces chiffres. C'est 77% en général.
Il y a du travail à faire.
Il y a du travail.
Si vous souvenez de la première chose que le président Obama a fait, après d'être élu, c'est de signer le Lilly Ledbetter Act, qui permet aux femmes, qui permettait aux femmes de pouvoir récupérer le salaire qu'elles devaient avoir au début. Mais vous savez, on vit dans un monde qui n'est pas du tout parfait. Il y a beaucoup de travail à faire et on doit essayer de trouver les solutions.
Merci beaucoup, Mamadou Samba, directeur du Bureau des Affaires africaines du maire de Washington. Un grand merci également à Echa Groover qui était avec nous dans le studio. C'était le magazine au féminin. À très bientôt, au revoir.
Merci.
Merci bien.
Let's go. Excuses now, I'm talking here and now, I'm talking here and now, let's go, your time is running out, I'm talking here and
good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, you're out.
salé, mal madou bien, bizarre.